l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour. C'est aujourd'hui Michel Collomb qui va vous présenter le représentant de Éthique sur l'étiquette, Pierre Bourguet. Et je pense que nous allons aborder des questions sur la solidarité, puisque nous sommes en plein dans l'événement du Festival des Solidarités aujourd'hui. Voilà. Donc, bonjour Pierre.
Bonjour Michel.
Voilà, et on va peut-être rappeler rapidement la composition du collectif Éthique sur étiquette. Il y a sont réunis en particulier Artisans du Monde, la CFDT, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le Centre de documentation Tiers-Monde, RITIMO, Chrétiens du monde rural et la fédération sportive Léo Lagrange. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Pierre ?
Ben, nous avons maintenant Action contre la faim aussi.
Très bien.
Et en partenariat, Attaque aussi, qui est avec nous.
Très bien. Bon, c'est effectivement intéressant.
Et la SECO-CFDT, c'est-à-dire l'association des consommateurs de la CFDT.
Ah d'accord, SECO-CFDT, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce que tu souhaites parler d'emblée de la question de la solidarité internationale
Oui.
Ou locale même ?
Oui, parce que ça a fait l'objet d'une soirée débat de notre collectif
le 20 novembre
dans le cadre du Festival des Solidarités, comme tu disais. Et donc, voilà. Alors, pourquoi ce débat ? Pourquoi est-ce que nous avons voulu évoquer cet avenir de la solidarité ? Parce qu'il nous a paru évident que la solidarité est non seulement en crise, mais même en péril. Et que ça soit au nord comme au sud, et que ça concerne les populations ou les acteurs. Et les acteurs, c'est des acteurs publics, des autorités publiques, l'État, les collectivités territoriales, et aussi donc les acteurs privés, ceux de la société civile organisée, c'est-à-dire les associations, les collectifs, voilà, qui donc comme le nôtre. Et donc cette crise de la solidarité, cette mise en péril, elle tient en fait à beaucoup de choses, et ça a été un peu discuté tout au long de cette soirée, justement parce que nous voulons prendre la mesure de la crise de la solidarité, hein, ici et là-bas, bien voir ses causes et ses effets, voir mesurer l'aggravation de la pauvreté-précarité, les inégalités absolument scandaleuses, la dégradation des services publics, l'insécurité alimentaire, le renouvellement des bénévoles. Enfin, il y a plein de raisons, plein de causes à tout cela, à cette crise, et ça doit nous interpeller et nous remettre en question. Voilà. Alors, il faut ajouter à ça, raison de la crise aussi, c'est l'affaiblissement de l'État-providence et des politiques sociales, parce qu'on est sous pression néolibérale de réduction systématique des coûts et de transfert croissant des activités de solidarité ou des actions de solidarité au secteur privé. Et donc, ça, c'est une des raisons encore de l'affaiblissement de la crise de la solidarité. Et puis, une réduction absolument drastique cette année des financements.
Des financements.
Tant pour la solidarité ici que pour la solidarité là-bas. Donc, on a voulu réunir un petit peu des acteurs de la solidarité ici et là-bas. On a eu Pierre Micheletti, qui est une figure quand même de l'aide humanitaire. C'est l'ancien président de Action contre la faim. C'est un médecin. Il a travaillé aussi à Médecins du Monde. Il est actuellement maintenant, il s'occupe de SOS Méditerranée. Il est aussi membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est une référence pour l'aide humanitaire et pour la solidarité internationale en général. Donc, il nous a dressé un panorama de la situation, en reprenant un petit peu les points que j'ai évoqués. Il a insisté aussi sur l'interdépendance croissante des sociétés et des peuples. Voilà. Et puis, nous avons eu aussi... Bertrand Mathieu,
qui est agronome,
Bertrand Mathieu, lui, est à AVSF, agronome et vétérinaire sans frontières.
Oui, oui.
Et on a eu aussi Jean-Philippe Turpin de la CIMAD de Béziers, qui sont intervenus et ça a été tout à fait intéressant parce que il faut bien voir qu'on est dans un contexte politique national et international dramatique, régressif, agressif, incertain, inquiétant, avec une montée de la droite extrême et des extrêmes droites. On est donc, ça veut dire aussi une diffusion des valeurs contraires à celles de la solidarité en général.
Bien sûr.
Également une attaque sur les droits des femmes et des minorités sexuelles, ethniques, l'intolérance, la haine, la violence. Enfin, c'est un climat psychologique, politique et idéologique qui est inquiétant et qu'il faut résister, il faut contre-attaquer. Voilà. Alors, bon, il y a aussi l'affaiblissement du multilatéralisme, la remise en cause de la domination occidentale sur la géopolitique, etc. Sans parler du climat, bien entendu, et de l'inaction climatique ou des régressions, là aussi, qui concernent le Green Deal au niveau européen et la directive, notamment la directive sur le devoir de vigilance des entreprises qui avait été votée l'année dernière en 2024 et qui cette année, sous pression des lobbies et de l'extrême droite et de la droite, a détricoté gravement. Voilà, donc ça c'est aussi une inquiétude pour nous et pour le collectif Éthique sur Étiquette, entre autres, mais pour nous qui travaillons sur la régulation et la transparence et la responsabilité des entreprises, notamment multinationales, ça nous inquiète beaucoup. Voilà, ce retour en arrière, cette volonté de revenir sur des normes sous prétexte de simplification, c'est une tartufferie honteuse. Donc, c'est grave sur le plan concret, parce que je reviens à la baisse des financements, ça impacte gravement les populations. Hein. Par exemple, avec ces coupes drastiques, la scolarité des enfants, il y a 17 millions d'enfants à peu près dans le monde qui sont concernés, qui ne pourront pas bénéficier de financement. Enfin, la vaccination de base également, concerne des millions et des millions d'enfants. Enfin, voilà, la formation agricole, l'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence, tout ça est impacté. C'est très grave pour les populations qui sont concernées. Mmh. Et puis, c'est grave aussi pour nos associations parce que nous avons déjà des difficultés graves, des actions qui sont supprimées. On ne peut plus les financer, donc elles sont supprimées. Et puis, ça peut aller jusqu'au licenciement et même en extrême, ça peut aller jusqu'à la disparition d'ONG et d'associations. Et on est concerné. Donc, c'est, tout ça est très grave. Donc, voilà. Alors, cette soirée a été quand même très, très intéressante et très importante. Moi, je voudrais ajouter un petit bémol, c'est qu'on avait invité le maximum d'associations de solidarité ici à Montpellier. On avait invité aussi, y compris à travers des contacts personnels, la mairie, le département, la région. Bon, on n'a eu aucun de ces trois...
Aucune des collectivités, en fait.
Aucune des collectivités territoriales n'était présente.
Oui.
Bon, alors, évidemment, sais qu'à Montpellier, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et pareil pour les associations, il en manquait quand même. C'est un peu dommage. Bon,
mais
ce n'est qu'un début, si j'ose dire. Continuons le combat, comme on disait en 68, c'est pas fini. Voilà. Donc, ouais.
Mais c'est vrai que les collectivités ont vu leur crédit diminuer très rapidement, hein, et elles ont donné la priorité à leurs charges importantes, leurs charges principales en particulier, le vieillissement, les retraites, etc.
Oui, bien sûr, les collectivités territoriales sont également très impactées par la baisse de leur financement,
tout à fait.
C'est certain, donc elles sont également...
Donc, pas étonnant qu'elles ne soient pas venues.
Oui, ouais. Oui, mais enfin, oui et non, parce que bon, justement, ouais. elles sont bien concernées aussi.
Oui, elles sont bien concernées. Ouais.
Bon, enfin, donc l'idée qui ressort, c'est que bon, il faut, on est obligé de se remettre en cause en tant qu'ONG de solidarité, et nous de solidarité internationale. Il faut également peut-être renforcer les partenaires du Sud, leur donner plus d'autonomie. Il faut se battre pour trouver d'autres financements, mais c'est très difficile. Et il faut se battre aussi pour que le gouvernement revienne, et les gouvernements reviennent sur... Parce que c'est général dans le monde. Hein. Vous savez que l'USAID, qui finance donc les États-Unis, c'est l'aide américaine au développement et l'aide humanitaire américaine, ça a été 44 milliards de dollars en 2024. Trump, là, sabré purement et simplement. Ouais. C'est réduit à quasiment zéro. Donc, c'est absolument dramatique et scandaleux. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais globalement, ça veut dire, le mot d'ordre, c'est résister. Voilà. Donc, il faut qu'on résiste et qu'on trouve les moyens de se sortir de là, et, pour nous et surtout pour les populations que nous aidons et avec qui nous sommes en partenariat au Sud. Voilà. Donc, ça, c'était une soirée intéressante du collectif Éthique sur étiquette avec Action contre la faim, notamment. Oui, et parmi les remèdes, il faut trouver des financements, et le débat budgétaire à l'Assemblée était quand même intéressant. Bon, il n'a finalement pas été voté sur l'aspect recette, mais il y avait quand même des mesures qui sont décidées. Il est nécessaire d'un impôt sur la fortune, sur les riches, les très riches. C'est absolument scandaleux des inégalités pareilles. Et on sait que cet impôt, l'impôt sur le revenu, n'est absolument pas proportionnel. Et donc, à partir d'un certain seuil, les riches payent moins d'impôts que la classe moyenne. Bon, donc c'est une situation ubuesque. Il y a des niches fiscales scandaleuses. Bon, on va pas... Mais pour la solidarité internationale, il y a deux taxes notamment qui sont en fonction, mais qu'on pourrait réévaluer fortement, c'est la taxe sur les billets d'avion, puisque là, cette taxe peut rapporter beaucoup plus que ce qui était, que ce qu'est actuellement. Donc, actuellement, c'est 850 millions d'euros par an. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Mais enfin, on pourrait aller au-delà. Donc, également, la taxe sur les transactions financières qui peut être augmentée et ce qui pourrait rapporter beaucoup plus. Donc, voilà, ça, c'est des choses concrètes qui peuvent nous permettre de retrouver de l'air et retrouver un peu d'espace pour travailler.
Je pense à une politique qui a été un peu oubliée, c'est celle du développement. Parce qu'il y a quelques années encore, on avait, dans le gouvernement, établissait toujours un programme de développement de certains partenaires en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, etc. Est-ce que tu penses que l'oubli ou l'abandon de cette politique de développement, telle qu'on l'a constaté depuis ces dernières années, soit responsable finalement de cette solitude dans laquelle se trouvent nos pays amis?
Oui, certainement, ça y contribue en partie, bien entendu. On sent qu'il y a une volonté de réduire l'aide au développement. Je rappelle qu'il y a quand même un objectif fixé par l'ONU il y a déjà une vingtaine d'années, de 0,7% du PIB consacré à l'aide au public au développement, eh bien on en est loin. Même en France, on est à 0,3. Bon, alors aucun pays, la Norvège, les pays du Scandinave s'en rapprochent, mais le reste du monde en est loin. Donc c'est très grave et ça montre qu'il y a une volonté politique qui n'est pas en faveur d'une véritable aide au développement. Par ailleurs, on est en train de quand on parle d'aide au développement, c'est deux choses, c'est de l'aide et des dons, des prêts pardon et des dons. Voilà, les dons, ok, hein, l'argent est laissé à l'appréciation. Alors, il faut contrôler quand même tout ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de corruption, il faut quand même le dire. Il y a pas de... Bon, mais il y a aussi des prêts, et quand on dit prêts, c'est les banques qui prêtent de l'argent, hein, et les banques, elles prêtent avec intérêt. Et donc, ça veut dire un endettement des pays concernés, des pays, hein, oui. Comme nous sommes aussi concernés par ailleurs en France. Mais... Donc, voilà, donc ça, c'est pas... ça complique les choses, ça rend les pays dépendants, les pays du Sud un peu dépendants des banques et du système financier et des multinationales. Enfin, donc, ce n'est pas, on n'est pas sur une bonne voie du tout, parce que, une fois de plus, l'Occident, et c'est un reproche qu'on peut lui faire, continue à dominer, manipuler à la fois l'aide, mais pas seulement, tout le système économique de ces pays repose, est entre les mains, finalement, du système économique dominant. Donc ce capitalisme mondialisé, financiarisé, qui étant comme ça une pieuvre partout. Donc, je veux dire, il faut comprendre que le développement en lui-même, c'est un concept qui doit être remis en cause. Parce qu'on ne peut plus continuer à imposer ce mode de développement dans les pays du Sud. On voit bien qu'il y a un néocolonialisme qui est là. Ouais. Donc, et puis, ça nous impacte aussi. Notre développement à nous, on voit bien que climatiquement, écologiquement, socialement, il nous conduit au mur.
Bon, c'est ça. Ouais,
donc, il y a une prise de conscience qui doit se traduire ensuite par des politiques, des décisions, des actions, des choix. Mais on n'en prend pas le chemin, parce que j'ai rappelé tout à l'heure ce contexte politique actuel, qui est un contexte proprement réactionnaire au sens de retour en arrière. Voilà. Donc, c'est très grave. Voilà. Donc, il nous a semblé que c'était important d'en parler, d'échanger, de croiser un certain nombre d'approches. Et je pense que ça va continuer. On va essayer, sous une forme ou sous une autre, de continuer ce débat. Et voilà, c'est une soirée qui a été quand même importante. Voilà. Alors après, je voudrais signaler que... le 27 novembre, dans le cadre du Festival des Solidarités, le collectif Éthique sur Étiquette propose une autre soirée avec le CCFD Terre Solidaire, qui est donc un de nos membres, sur l'eau bien commun. Voilà, l'eau bien commun, ici et là-bas. On essaye de croiser les approches, hein, de faire en sorte que quand on parle d'ici, et on parle aussi de là-bas, et quand on parle de là-bas, c'est aussi d'ici dont il est question. C'est ce que, au cours de la soirée du vin, on a bien compris, et c'est l'interdépendance croissante des peuples, des sociétés et des problématiques, bien sûr. Donc,
ce problème de l'eau, il est urgent. On peut dire qu'on voit déjà des pressions qui sont faites par certains régimes, par certains gouvernements, pour conserver au maximum l'eau des fleuves, par exemple, aussi bien en Orient qu'en Afrique. Oui. Je pense à l'Éthiopie, par exemple. Je pense au monde arabe.
Oui, oui. Alors, il y a beaucoup d'aspects à traiter concernant la thématique de l'eau. Il y a l'eau, c'est une ressource rare dans certains pays. Il faut donc la gérer. Et pour ça, il faut effectivement que les États, quels qu'ils soient, au nord comme au sud, tiennent les rênes de la gestion de l'eau. Or, dans beaucoup de pays, la gestion de l'eau est confiée à des sociétés privées, des grandes multinationales, et donc ça pose des problèmes, parce que l'eau, c'est quand même un bien commun.
Tout à fait.
C'est un bien vital, c'est un bien commun, ça concerne l'ensemble des gens, citoyens ou pas, qui vivent sur un territoire et qui est absolument vital. Alors, est-ce qu'on doit, c'est notre point de vue, en faire un bien libre, géré par l'État ou les collectivités territoriales, ou est-ce que, comme c'est la situation actuelle prédominante, en tout cas dans un certain nombre de pays, est-ce que c'est le considérer comme un bien économique, un bien marchand comme un autre, d'accord, où le marché est roi? Non, donc
on va faire peut-être une petite pause, hein, si tu permets.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
نفس الشمس بتشرق علي وعليك, نفس النجم بعيوني بتضوي بعيني.
Até sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
Yeah, 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 yeah.
La grande vie nous a plongé dans sa cohue. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus.
Yeah, 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 là. Yeah, 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 là.
Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Voilà. Vous êtes... Donc tu voulais insister un petit peu sur la question, le problème de l'eau.
Oui, revenir à cette soirée du 27 novembre, donc qui a lieu salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot, c'est à Montpellier, donc tram ligne 4, sortie Pérou.
Voilà.
Donc oui.
C'est l'espace Pitot. Hein,
l'espace
je précise
Pitot.
Bien.
Oui, oui, c'est ça.
Et c'est la salle Guillaume de Nogaret.
C'est ça. Alors on aura trois intervenants. Jean-Marie Larose du CCF d'Esther Solidaire, qui va livrer sa réflexion sur l'accès à l'eau. On aura ensuite un témoignage, une intervention sur la question de l'eau en Palestine, avec l'association France-Palestine Solidarité, qui va nous faire un état des lieux de la ressource en eau et de sa gestion en Cisjordanie, hein, et à Gaza, voilà, avec Julie Trottier, qui est directrice de recherche au CNRS. Et puis également, on aura, dernière intervention, l'accaparement de l'eau et ses conséquences. Donc ça, c'est sur l'aspect, est-ce que c'est un bien économique, est-ce que c'est un bien commun, et c'est José Forneron, qui est notre correspondant CCFD, au collectif éthique sur étiquette qui va s'en charger. José était un économiste et il connaît bien l'affaire. Voilà. Donc, je termine là-dessus en disant qu'il y aura aussi, à la fin de cette soirée, un spectacle musical et poétique avec le chœur de l'ensemble Au fil du Lez. Voilà. Donc, un petit clin d'œil sur l'eau. L'eau du Lez aussi. Donc, une soirée qui s'annonce tout à fait intéressante. On va parler aussi du scandale de Nestlé à cette occasion, puisque, je sais, vous êtes au courant, il y a eu un procès organisé par l'UFC Que Choisir à propos d'un scandale concernant Nestlé Waters et à propos de Perrier et par Vittel et Contrex. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout Perrier, ici, puisque
c'est
un produit à
on est tout près d'ici,
à côté de Lunel, pour utilisation de traitements interdits de désinfection. Voilà. Donc, ces produits de traitement interdit devraient, auraient dû entraîner la déqualification de l'eau de Perrier, d'eau minérale naturelle, en simplement eau de bois, eau, voilà. Enfin, oui. Une autre dénomination, mais donc, parce que il ne faut pas oublier que les eaux minérales naturelles se vendent 100 à 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Alors que là, Perrier ne devrait plus avoir droit à l'application eaux minérales naturelles. Alors, Nestlé a commencé à, effectivement à le faire en créant une nouvelle dénomination pour un certain nombre de ses produits.
Oui, tout récemment, d'ailleurs.
Tout récemment, hein, voilà. Oui. Alors, ce procès qui notait aussi qu'il y avait un silence complice de l'État et du ministère de la Santé, puisqu'un rapport de l'ARS, l'Agence régionale de santé, a été, de 2023-24, a été édulcoré à la demande de Nestlé, avec l'accord de la ministre de la Santé de l'époque, Madame Pannier-Runacher, pour ne pas la citer. C'est une affaire assez scandaleuse. Mmh. Malheureusement, le 18 novembre, là, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la plainte du FC Que Choisir, mais ce n'est qu'un début, il y aura un appel, et on verra la suite. Voilà, donc ça c'est pour cette soirée du 27 novembre, donc qui est à venir, et à laquelle je vous invite à participer. Alors, je veux revenir juste sur la question des financements de la solidarité internationale notamment, mais on peut aussi prendre une partie des recettes pour financer notre modèle social et les politiques sociales ici en France. C'est une proposition de Louis Morin, qui est directeur de l'Observatoire des inégalités, et qui propose d'augmenter la CSG, donc prélevée à la source, pour financer notre modèle social. Voilà. Donc, deux points de plus de financement, de prélèvement à la source, d'après Louis Morin, nous donnerait suffisamment de recettes.
C'est un prélèvement qui est général.
C'est ça, absolument
qui est
général.
Lié aux impôts.
Oui. Alors, le problème, c'est que, bon, c'est général et universel et donc uniforme.
Ouais.
Or, selon
c'est
les...
C'est un peu gênant.
C'est un peu gênant et il faudrait peut-être le...
Ouais.
voir au niveau des très riches une contribution, ou des riches et des très riches, une contribution supplémentaire, mais on en a déjà parlé, elle est absolument nécessaire et à mon avis, elle viendra, Tak Zuckman ou pas, il va bien falloir... Je ne comprends pas l'obstination de la droite et de l'extrême droite à ne pas vouloir de justice fiscale minimum. C'est quand même révoltant. Voilà, je le dis. On a une portion de la population minime, entre 1% maximum, qui gagne des fortunes, on n'ose même plus dire combien. Eh bien, ces messieurs surtout, ne veulent pas qu'on y touche. Voilà. Bon, mais ça, c'est une injustice absolument scandaleuse. Bon, voilà pour ça. Alors, est-ce que... Oui, on peut revenir quand même sur un petit point. On trouve que les financements publics ont faibli. Je voudrais ajouter un truc sur la générosité des Français au niveau des dons, hein, qui pour les actions de solidarité ici et là-bas. Eh bien, une étude a montré qu'elle ne se tarit pas, cette générosité. Elle reste quand même assez forte. Les dons sont relativement stables. Les jeunes soutiennent surtout l'environnement, l'éducation et la jeunesse. Et les plus de 65 ans financent davantage des projets de santé, de culture et d'action sociale. Voilà. Donc, c'est quand même intéressant que...
que la mentalité
malgré les atteintes aux valeurs de solidarité auxquelles on assiste, que quand même la générosité des Français reste assez forte et on peut s'en réjouir.
Mais en tout cas, cette année, en tant que responsable d'association, j'ai fait des démarches aussi pour obtenir une subvention du Conseil général et on a été réduit à zéro.
Et oui, c'est... Hein? Ça touche.
Et je pense qu'on n'est pas la seule association à avoir été privée de subventions.
Ah ben c'est sûr.
Donc là, ça nous invite à revoir complètement notre attitude sur le plan gestion d'association.
Ah oui, oui, il y a une obligation de s'adapter, mais au-delà, il faut engager la résistance, engager.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Pas seulement s'adapter,
oui.
mais contrer, essayer de résister et de faire en sorte que on revienne sur des financements, on accepte de revenir sur des financements qui nous assurent une certaine pérennité. Sinon, encore une fois, c'est les populations les plus défavorisées qui vont trinquer. Hein. L'hébergement d'urgence, l'aide alimentaire, la formation, la vaccination de base, enfin, je veux dire, c'est dramatique. Donc là, il faut absolument que les États, les gouvernements, les politiques reviennent là-dessus et se reprennent, parce que sinon, c'est très grave. Et alors, peut-être un dernier mot sur le détricotage de la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Je rappelle qu'il y a une directive européenne qui a été votée en 2024, l'année dernière, c'est pas vieux, par le Parlement européen, hein. Et cette directive qui faisait suite, je le rappelle, à l'adoption en France en 2017 d'une loi sur le devoir de vigilance des entreprises, eh bien, cette directive du Parlement européen a été détricotée sous pression des lobbies et de l'extrême droite tout récemment. Et là, le 13 novembre 2025, le Parlement, c'est-à-dire la droite alliée à l'extrême droite, a fait basculer cette directive, enfin, réduit fortement l'impact et le contenu de cette directive. C'est dramatique parce que les entreprises seront incitées, encore une fois, à une violation des droits humains au travail et à des atteintes à l'environnement. Donc c'est très grave.
Si tu permets, Pierre, on va peut-être récapituler ce qui doit se passer pendant ce début de semaine-là. En particulier, il y aura le vernissage de l'exposition de la Maison des Territoires du Monde et de la Solidarité Internationale lundi 24 à 18h30. Il y aura pour le mardi, alors il y a beaucoup d'activités le mardi, il y aura le Café Actu le 25 à midi avec la présentation d'un film qui s'appelle « À la terre, Cameroun, terre des femmes » de midi à 14h. Et le jeudi 27, comme tu l'as déjà dit, à 18h30, il y aura à l'espace Pitot, c'est-à-dire salle Guillaume de Dogaret, un débat sur l'eau, bien commun,
hein, oui.
L'eau bien commun, ici et là-bas, à la maison, à l'espace Pitot.
Voilà.